Bonsoir à tous et à toutes. Ravi de vous accueillir à la médiathèque José Cabanis pour ce nouvel épisode, on pourrait dire, du rendez-vous de l'actu sur le thème des faits divers, ce qui explique peut-être votre présence particulièrement nombreuse. Je m'en félicite parce qu'ils nous fascinent tous, il faut le dire, et comme l'annonce le précisait, on n'en est pas toujours fier d'être fasciné par les faits divers. On abordera cette impression-là, ce sentiment qu'on peut avoir parfois. Et on abordera bien évidemment d'autres aspects de ces faits divers à travers l'expression, à travers le témoignage de trois personnes, dont trois invités.
Mémodio, une mémoire sonore.
Pendant le procès, ça arrive très rarement qu'on ne donne pas des éléments. On va réfléchir, par exemple. Moi, je sais que je fais attention, notamment si jamais il y a certains témoins qui sont jeunes, je ne vais pas forcément mettre le nom et le prénom. Je vais mettre que le prénom parce que j'estime qu'après, si on fait une recherche internet, etc., et qu'on tombe là-dessus, voilà, on n'a pas forcément envie de savoir qu'on a... Enfin, un employeur, je veux dire, peut faire des recherches et je ne voudrais pas que ça leur porte préjudice par la suite. Non, il m'est arrivé une fois, en fait, d'être dans un procès où la personne poursuivie l'était pour empoisonnement. Et on a découvert au cours du procès que, en fait, l'accusé avait également donné le virus le VIH à sa compagne. Il ne l'avait pas informé qu'il était malade, qu'il était d'ailleurs traité pour ça. Et elle, au hasard d'analyse sanguine, avait découvert qu'effectivement, il l'avait contaminée. Je trouvais que c'était intéressant de la part de quelqu'un qui était aussi accusé d'empoisonnement. Il y avait quelque chose autour de voilà, oui, contamination de l'autre. Mais je ne l'ai pas écrit parce qu'en réalité, sa femme portait le même nom que lui, qu'elle travaillait encore. Donc voilà, donc je ne l'ai pas dit en fait pour préserver cette information qui en plus se touchait à sa santé, etc. Donc effectivement, on va censurer, même si ça raconte quelque chose dans l'histoire, bon ben on est quand même face à des personnes réelles, donc il faut quand même se poser la question de ce qu'on raconte ou de ce qu'on ne raconte pas. Quoi.
Frédéric, même question, vous avez affaire, je suppose, aux familles des victimes, aux familles des coupables, etc. Est-ce qu'on écrit si facilement que ça? Est-ce qu'on n'a pas parfois tendance à lever la plume ou la main du clavier parce qu'on sait que ça peut faire du mal, tout simplement, ce qu'on écrit?
C'est une question qu'on se pose, effectivement, avant de relater un récit forcément désagréable pour celui qui va le lire. Et en général, on se pose toujours la question des conséquences de ce qu'on va écrire. En fait, qu'est-ce que si j'écris telle ou telle phrase, si je donne tel ou tel nom, quelles conséquences ça va avoir pour la suite, en fait. Et petit à petit, voilà, avec ce raisonnement en tête, on arrive progressivement à rédiger quelque chose qui tienne à peu près la route. Mais effectivement, quand il y a des enfants, quand on sait que ça concerne voilà, des familles plus ou moins connues qui ne sont pas forcément responsables des agissements d'un fils ou d'une fille, voilà, on fait attention et il faut rendre un petit peu d'humanité même dans la pire des horreurs, parce que on le sait, on est jugé aussi par des hommes, on ne juge pas des monstres, hein, avant tout, c'est le discours que vous tiendront tous les pénalistes en général. Hein, s'ils sont là à défendre le pire des criminels, ils vous diront, mais je juge avant tout un homme, je juge avant tout un criminel, je ne juge pas le crime. Derrière le criminel, il y a un être humain qui est passé à l'acte. Alors, ce qui va nous interroger, c'est pourquoi il est passé à l'acte, bien sûr. Essayer de comprendre tout ça, bien sûr, c'est pas excuser ce qu'il a fait, mais c'est toute la démarche judiciaire qui déroule autour d'un procès.
Judiciaire et journalistique, si je vous suis bien.
Journalistique aussi, parce que oui, journalistique aussi, mais nous, si vous voulez, on est tenu aussi d'une certaine rigueur par rapport à tout ça. On ne peut pas, bien sûr, écrire n'importe quoi sur une affaire sans tenir compte.
Vous avez été l'objet de pression parfois?
Oui. Toujours.
Toujours.
Toujours, ah ouais. À différents niveaux, mais ça fait partie du métier. Parce que, si vous voulez, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les réseaux sociaux ont pris tellement de place que finalement, on n'a plus besoin de journalistes pour faire passer les messages qu'on a envie de faire passer.
Oui, chacun...
Donc chacun fait sa tambouille sur un réseau social et le journaliste, il est mis de côté. Je me souviendrai toujours, il y a quelques années, où je me suis rendu à Quillan dans l'Aude pour des inondations, des grosses inondations. Et je vais interroger quelques personnes, notamment dans un café, le responsable du bar... qui avait été qui avait subi un grave préjudice par rapport à cette montée des eaux subite et qui m'a répondu non mais bon qu'est-ce que je vous dise, il y a tout sur les réseaux, allez voir sur les réseaux. Bon, voilà, c'est donc nous on est obligé d'en tenir compte, mais maintenant si vous voulez c'est le monde dans lequel on vit, donc forcément on est là aussi
fait
pour
on fait avec
et puis ouais. On s'adapte et puis on évolue aussi, donc...
Alessandro, c'était justement une question que j'avais en tête, ça, c'est l'influence des réseaux sociaux. Dans votre métier, il y a aussi maintenant cette pression-là, la pression non pas médiatique, mais la pression de vous et moi, du peuple, je pourrais dire.
Elle y est, mais on le voit surtout dans les gros dossiers médiatiques, et notamment en cour d'assises, mais pas que. D'ailleurs, sur la plupart des... que vous regardiez sur TikTok ou même sur Facebook ou autre, même sur des articles La Dépêche que vous voyez en ligne, vous avez toujours des commentaires qui sont possibles. Et lorsque vous voyez les commentaires, effectivement, vous avez toujours une lecture qui est très particulière, en tout cas des dossiers. L'avocat est aussi pris parfois à partie, faisant en fait un amalgame entre la personne qu'ils défendent, comme s'ils étaient également, complices du crime ou de la problématique, en tout cas qui concerne le dossier. On a souvent un renvoi de comment vous pouvez défendre telle personne. Voilà, et ça, c'est quelque chose souvent qui n'est pas compris.
Et de plus en plus, ou de moins en moins compris, plus exactement
Je ne sais pas, parce que ceux qui laissent les commentaires, c'est souvent, on va dire, les plus extrêmes dans les commentaires, donc ça ne doit pas forcément refléter la majorité. Moi, à titre personnel, lorsque dans ma vie de tous les jours, on rencontre du monde et qu'ils vont savoir à un moment que je suis avocat, je vais quand même avoir souvent ce genre de questions. Comment tu fais pour défendre telle personne? On a ça, donc c'est quand même quelque chose qui interpelle. Après, on n'a pas forcément un jugement négatif.
Mais on est d'accord, en tout cas moi je le suis, il faut défendre tout le monde, même les êtres apparemment les plus monstrueux. Il n'empêche, on doit avoir des états d'âme quand on se retrouve à côté d'un être vil, d'un être qui a commis les pires abjections et qu'il faut parler à sa place et montrer un côté humain le plus séduisant possible pour convertir les jurés à sa cause, non?
Alors, je pense que la réponse dépend de la personnalité de chacun. Pour ma part, alors peut-être que ça va vous surprendre,
mais
je n'ai absolument aucun affect dans les dossiers, quels qu'ils soient.
C'est
j'enlève ma robe, je ne pense plus au dossier. Je ne vais pas du tout y ruminer ça. Après, tout le monde ne va pas forcément avoir cette capacité-là. Moi, j'arrive à couper. Et je pense que justement, il ne faut pas servir d'éponge et avoir cet affect, parce que sinon, ça va venir, à mon avis, polluer votre manière de présenter le dossier, de le défendre, parce que vous allez absorber en fait tout un tas d'éléments qui n'est pas bon. Par contre, sur le terrain médiatique, alors moi je l'ai pas eu, j'ai pas eu à le supporter directement, mais je sais qu'il y a des confrères où le traitement médiatique des affaires va les obliger eux-mêmes à avoir
telle ou telle attitude. Ouais.
Alors une attitude, mais aussi de devoir faire le jeu médiatique, alors qu'ils s'en seraient passés. Mais à partir du moment où vous allez avoir des informations, souvent même au travers de l'enquête ou de l'instruction, qui sont confidentielles, mais ils ont des sources qui vont révéler des faits, ben vous, quand vous êtes en défense, si vous vous contentez, alors que vous êtes soumis au secret de l'instruction, donc vous n'avez pas le même poids, les mêmes armes, mais si vous ne contre-attaquez pas sur le terrain médiatique pour donner aussi d'autres éléments du dossier, ben ça veut dire que vous allez, pour tout le monde en tout cas, avoir une vision du dossier avec certains éléments sans pour autant venir derrière contrebalancer. Ce qui oblige l'avocat à sortir de son rôle et d'aller aussi sur le front médiatique, là où il ne serait pas allé en temps normal, parce qu'il n'a pas une égalité des armes en fait, au travers de sources qui vont révéler des faits du dossier. Et vous êtes astreint à une confidentialité liée au secret de l'instruction. Donc on n'a pas la même chose. Donc malgré tout, on essaye de pouvoir apporter des éléments avant même qu'il y ait le jugement, parce que le procès en fait souvent commence au stade de l'enquête et du traitement. traitement médiatique qui a un effet immédiatement. Quoi.
Je reviens sur ce que vous disiez sur l'absence d'affect. Ça veut dire que quand vous avez quelqu'un en face de vous, un client, vous le jugez, entre guillemets, vous l'évaluez uniquement à l'aune du code pénal, des lois, des...
Moi je suis pas juge, donc je vais pas juger ça, mais on a un ressenti, forcément un ressenti, donc bien sûr qu'on va avoir un ressenti sur le dossier, sur ce qu'il va nous dire, si on voit qu'il nous ment, tout ça, bien sûr. Mais après, même s'il me dit que oui, il a commis tel ou tel fait, ça ne va rien changer dans la manière d'amener le dossier. Stratégiquement, oui, mais après, ça va pas pour autant me mettre en difficulté pour le défendre.
Élise, même question sur les affects. Qu'est-ce qui, quand vous assistez à ces procès-là, où effectivement le plus intime de l'être humain est évoqué, où on voit les pires choses, peut-être parfois les meilleures aussi, qui sait, même si ça vous fait sourire, en tout cas dans l'élan de la défense, qu'est-ce que vous ressentez? Vous n'êtes pas secoué émotionnellement?
Si, ça nous arrive, surtout que bon, enfin voilà, on a l'habitude de suivre des affaires compliquées. Par exemple, quand j'ai suivi l'affaire de Mazan, des viols de Mazan, ça dure quand même 4 mois, c'est long, donc c'est difficile pour le coup de couper et de. En plus, nous, on écrit nos papiers après les audiences. Donc, en fait, on vit avec l'affaire pendant un moment et c'est difficile de s'en détacher. Mais non, après, comment on fait déjà, il faut voir que le carnet, je trouve, est un bon outil de passage. C'est-à-dire que ça permet de déposer un peu, ça permet de faire en sorte que les phrases ne restent pas trop en tête. Et puis, on en parle aussi beaucoup entre nous, au sein de la presse judiciaire, on débriefe beaucoup.
Mais pour évacuer, pour exorciser.
Oui, aussi. Et puis en plus, il faut se rendre compte que quand on est comme ça, quand on suit des procès d'assises, on part pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, on est loin de notre famille, on est à l'hôtel, etc. Et en fait, nos seuls alliés, nos seuls compagnons de route à ce moment-là, ça va être les autres journalistes, ouais, les confrères, les consoeurs, ou même les avocats avec qui on peut discuter. Non, après, ça m'est déjà arrivé de pleurer à la cour d'assises parce que j'ai trouvé un témoignage poignant, par exemple. Et je suis pas... Je le vis pas comme quelque chose de pas professionnel. Bon, bien sûr, je le fais discrètement et voilà. Mais ça me dérange pas dans ma pratique. Je trouve qu'au contraire, il faut avoir un minimum d'empathie. On peut pas... C'est une matière qui est quand même très particulière. On peut pas... C'est important de rester factuel. Mais c'est difficile de rester dans une neutralité, la sainte neutralité objective. C'est quand même compliqué.
Ça veut dire qu'on peut ressortir d'un procès en disant « c'est honteux, le verdict est honteux »
Moi, ça m'est déjà arrivé de trouver effectivement que la justice n'avait pas été à la hauteur. Oui, et c'est ce qu'on essaye aussi de montrer. Parce que, encore une fois, le crime n'est qu'un prétexte. Il permet de raconter des choses de la société, comment la justice s'est rendue. Ce que je trouve très important, parce qu'en fait, on se rend compte, par exemple, Alexandre parlait des commentaires, on se rend compte à quel point les gens ne connaissent pas la justice, ils ne savent pas comment elle fonctionne. Et c'est normal. C'est très compliqué d'aller suivre des procès toute la journée, je l'entends bien. Mais voilà, nous aussi, on a un rôle de pédagogie là-dedans.
Vous reprenez le mot à votre sujet, pédagogie, à votre compte, Frédéric, quand vous écrivez, il y a aussi ce souci de pédagogie?
Oui, c'est une des principales. On fait très attention à ça et on veille à être aussi pédagogue, à expliquer comment fonctionne la justice. Le drame de la justice pour celles et ceux qui sont confrontés un jour, et on l'a tous été à des degrés divers, ou peut-être on le sera, on ne peut pas savoir. C'est ça aussi qui fait le charme de toute cette matière de faits divers, c'est qu'il y a une part du destin et une part de l'imprévisible aussi. Mais c'est vrai que la pédagogie, c'est très important, parce que pour les gens qui sont, par exemple, victimes d'une famille qui est touchée de près par le meurtre d'un proche, ce qui est terrible pour elle, c'est qu'en fait, elle découvre, elle doit gérer, elle est victime d'une double peine en quelque sorte, parce qu'elle doit gérer le deuil de ce qui s'est passé, cruellement, la brutalité d'un meurtre, et puis le fonctionnement d'une justice qui par moment, a du mal à se faire comprendre, quoi, de comment elle fonctionne, comment elle avance, suffisamment pas assez vite selon les victimes, Alors j'ai tendance à citer cette fameuse fameuse phrase d'un ancien magistrat qui disait que en fait que la justice était une erreur millénaire qui veut qu'on ait attribué à une institution le nom d'une vertu.
Et, ah, oui.
Et c'est vrai que alors il faut pas confondre des fois la justice avec l'institution judiciaire. L'institution judiciaire, c'est comme un petit peu l'éducation nationale, si vous voulez, c'est quelque chose de très lourd. Ce sont des administrations qui avancent lentement. La justice a besoin de sérénité aussi pour fonctionner, donc il y a tout ce temps qui est nécessaire aussi pour réparer les choses, si on peut parler de réparation, mais en tout cas, elle est là pour faire de son mieux avec les moyens qu'elle a. Mais c'est terrible pour ces familles qui sont confrontées à ça et qui doivent en quelque sorte apprendre à connaître aussi le monde judiciaire et aussi ses vicissitudes et aussi ses propres failles et c'est ça qui est déroutant par moment parce que on passe nous aussi notre temps en tant que journaliste à leur expliquer aussi ça alors que c'est pas foncièrement notre métier de base mais on y est obligé et forcément on le fait parce que on est confronté des fois à de telles inepties quand on écoute des gens ils vous disent par exemple sur Jubilard par exemple combien de fois j'ai entendu cette phrase mais à propos de Jubilard mais il peut pas être condamné il y a pas de corps. Alors, est-ce qu'on est dans la justice américaine ?
Ça rappelle l'affaire Viguier aussi.
Ça rappelle l'affaire Viguier, mais si vous voulez, les gens sont par moments, on a l'impression que les gens sont plus connaisseurs de la justice américaine que de la justice française. Des fois, dans les tribunaux, on entend « votre honneur ». Vous voyez, c'est... Alors bon, la justice française fonctionne différemment. Effectivement, on n'a pas besoin de corps pour condamner un accusé. Et on se base sur d'autres éléments, heureusement.
Et quelles sont vos relations, justement, dans le cadre de vos enquêtes? Vous devez forcément approcher les familles des victimes. Ça vous arrive, ça. Je suppose que vous ne travaillez pas uniquement à partir de dépêches AFP. Non. Donc, on marche sur des œufs, ça doit être des moments éprouvants. Et est-ce qu'on arrive, comme Alessandro semble y parvenir, à se détacher de l'émotionnel?
Alors, on n'est jamais le bienvenu, hein, ça c'est évident. Quand on veut se rapprocher d'une famille de victimes, d'un papa, d'une maman dont le fils ou l'enfant a été tué, dont la femme a disparu, la personne a envie de tout sauf de parler à un journaliste. Bon. Donc c'est un métier. Voilà, c'est un métier.
Il vous est arrivé de nouer autre chose que des rapports purement professionnels, d'avoir de la... voilà, une espèce de... Peut-être pas d'amitié, mais en tout cas des une espèce de... Ouais, d'empathie plus grande, plus développée, plus...
Oui, bien sûr, mais... Alors... Ça dépend évidemment ça dépend qui on rencontre, ça dépend de la perception des uns des autres, de comment on est perçu, quelle est pour cette personne l'utilité de parler à un journaliste dans ces moments-là. On vit dans un monde ultra connecté, hyper médiatisé, il y a tout se sait, donc on peut se dire, bon, après tout, oui, c'est naturel de parler à un journaliste, on est, de toute façon, tout se sait, aujourd'hui, mon affaire, elle est déjà connue, elle est déjà sur les réseaux, on en parle déjà de partout, donc après, il y a une notion de confiance aussi qui doit s'installer entre les victimes et le journaliste, c'est la relation, c'est par cette confiance-là, si vous voulez, qu'on arrivera à travailler. Donc tout ça se travaille, ça se perfectionne, ça s'entretient.
J'allais vous dire, j'imagine qu'au fil de sa carrière, on gagne en habileté, le mot n'est pas beau, mais en tout cas en justesse, en finesse.
Oui, après ça dépend, encore une fois, ça dépend des tempéraments, des caractères. Hein. Il y a des gens qui vivent le deuil, qui essaient de vivre leur deuil de manière complètement différente. Il y a autant de victimes qu'il y a de deuil à faire, quoi. Mm-hmm. C'est jamais pareil pour personne. Donc aujourd'hui plus qu'avant, je trouve. Mm-hmm.
Je voudrais vous interroger, Alessandro, tout à l'heure, on on a évoqué la raison pour laquelle justement on est fasciné par ces faits divers, il a été évoqué le mystère. Mais il y a autre chose, me semble-t-il, c'est une question de rang social. J'ai l'impression, alors que je viens de citer tout à l'heure l'affaire Viguier, il y a des années de ça, vous étiez pas né, mais il y avait l'affaire Bruyère-Nartois, où c'était, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'était un fait divers qui avait énormément fait parler, parce que c'était un notaire qui était accusé. Bon, bref, cette hiérarchie sociale, de voir quelqu'un d'un rang social assez aisé, assez élevé, commettre des faux pas, ça semble attiser la curiosité. Je me trompe ou pas?
Alors peut-être en partie, mais en fait on se rend compte que la plupart des faits divers concernent des gens
de toutes sortes,
de tout milieu, et j'ai davantage l'impression que dès lors que ça va toucher en fait à des personnes de la rurale...
Excusez-moi, je vous interromps deux secondes.
Mesdames, Messieurs, la médiathèque ferme ses portes dans 15 minutes. Merci d'enregistrer vos prises sur les automates.
Voilà, vous pouvez reprendre.
Dès lors que ça concerne aussi des protagonistes qui sont dans le milieu de la ruralité, j'ai l'impression que ça captive plus, mais au contraire.
Ah bon ?
Oui, parce qu'en fait, on a l'impression que ça peut être son ami, son voisin, son boulanger. Et si vous regardez la plupart des faits divers, c'est souvent, en tout cas, des faits qui sont dans des petits villages perdus que personne ne connaît. Et c'est là où ça va alimenter, en fait... davantage de passion, en tout cas je trouve. Hein.
Non, mais c'est intéressant. Élise, votre regard là-dessus?
Oui, en fait, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que est-ce que c'est une question
avec Alessandro?
Oui. Est-ce que c'est une question de géographie? Je ne sais pas, mais en tout cas. Après, ça dépend tellement. C'est-à-dire que si jamais on pouvait savoir pourquoi un fait divers marche plus qu'un autre, c'est nous, en tant que journalistes, on est toujours surpris parce que parfois on a une affaire qu'on va suivre et qu'on trouve. Nous, incroyable, on trouve le dossier incroyable parce que l'enquête l'a été, parce qu'il y a énormément d'informations, etc. Et parfois, une autre affaire qu'on... Enfin voilà, on n'aurait pas misé dessus, qui, elle, en revanche, ça dépend de s'il y a un creux dans l'actualité. Enfin voilà, ça dépend de beaucoup de choses, quoi, en réalité.
Entrons dans le concret. Quelles sont les affaires qui vous ont le plus marqué ?
Il y en a beaucoup parce qu'en plus j'ai l'impression que la plupart des affaires elles me poursuivent un peu. Enfin, je pourrais vous en citer tellement, mais ce sont pas forcément les plus médiatiques. Moi, je sais que j'avais été à Rouen voir assister à un procès d'assises où c'était deux femmes qui étaient accusées d'avoir tué le compagnon de l'une d'entre elles. Et en fait, je m'interrogeais beaucoup sur le rapport d'amitié entre ces deux femmes, à quel moment l'ami décide d'aller aider pour tuer une personne. Et en réalité, on découvre que la victime était un tyran domestique et que cet ami a connu ça dans sa vie et que ça, en fait, c'est ce qui l'a fait replonger. Et ça, par exemple, c'est un dossier qui m'a hanté pendant longtemps parce que vraiment, c'était une enfant que les services sociaux avaient laissé tomber, quoi, et qu'elle n'aurait jamais dû se retrouver là à ce moment-là. Voilà. Donc, mais vraiment, je pourrais vous.
Continuez, mais il y en a beaucoup.
Non, mais attendez, je vais essayer de l'affaire Amandine Estrabo, par exemple, le fait qu'on ait condamné un homme typiquement où il n'y avait pas de corps, on n'a pas retrouvé, en fait, c'est une femme qui disparaît, Amandine Estrabo, on n'a jamais retrouvé son corps. Un an après, on arrête un homme dans le village et cet homme est condamné pour le meurtre et le viol de cette femme. Voilà. Alors qu'on n'avait pas de corps, autant le meurtre intellectuellement, je pouvais l'entendre, autant le viol quand il n'y avait pas de corps, je ne comprenais pas trop. Voilà. Ça, c'est par exemple une affaire aussi qui m'a... En plus, elle a été très longue parce qu'elle a été jugée trois fois. Et pour le coup, je trouvais qu'il n'y avait pas énormément d'éléments. Donc, c'est pareil. À différents niveaux, en fait, on peut être... Mais ça peut être aussi de simples moments d'audience. Je veux dire, ça peut être la mère d'une victime qui va livrer... qui va déposer à la barre et qui va livrer un témoignage absolument incroyable. Ça peut être ce genre de choses-là aussi qui fait qu'après, on garde un procès en mémoire.
On lit, si ce n'est amitié, mais en tout cas on se connaît avec les avocats, avec les parties prenantes.
Avec certains, oui. Ouais. Oui, et puis après, encore une fois, comme les procès peuvent durer très longtemps, même si au premier jour ils évitent les caméras, ils ne veulent pas trop parler, je parle aussi bien des parties civiles que des avocats, que de tout le monde, bah, petit à petit, quand on passe 8, 9 ou 10 heures dans la même salle d'audience, qu'on mange dans les mêmes endroits, etc., bah, c'est sûr qu'au bout d'un moment on va finir par se parler. Donc, c'est encore une fois, c'est très humain. Hein.
Et on se découvre soi-même.
Oui, mais c'est justement ça qui est intéressant dans cette matière. C'est-à-dire qu'en fait, en apprenant des autres, on apprend aussi beaucoup de ses proches, de soi-même. Enfin, c'est ça qui est fascinant en réalité. C'est que, comme mon voisin en parlait tout à l'heure, par rapport au déni, le déni, on l'a tous eu à un moment donné de notre vie pour... peut-être pas pour des crimes, je ne le souhaite pas. Mais voilà, c'est quelque chose, c'est un mécanisme psychologique qu'on a pu avoir. Voilà. Et de comprendre et le décrypter, ça c'est super intéressant, je trouve.
Frédéric, si je vous pose la même question sur les affaires qui vous ont marqué, vous allez me parler de Jubilard, forcément.
Pas forcément, parce que ce n'est pas une affaire extraordinaire.
Comment ça, ce n'est pas une affaire extraordinaire? Vous en avez fait un livre.
Non, mais dans le sens où si vous voulez, c'est une affaire de on va dire... une affaire d'amour qui tourne mal, en quelque sorte, une affaire de voilà, peut-être... dans l'hypothèse où il est coupable, hein, dans l'hypothèse où il est où c'est bien lui qui l'a tué, mais ça reste une affaire banale de violence intrafamiliale, banale. À côté d'affaires, de terrorisme ou de grande délinquance, ou de crime organisé, etc., c'est en ce sens où je parle de banalité, mais...
Oui, tout à fait.
Voilà, mais c'est toute proportion gardée. Alors oui, alors celle-là, elle peut être classée dans l'exceptionnel, dans le sens où on a toujours ce fameux mystère qui perdure et cette énigme sur où est le corps et si c'est pas lui qui sait, donc c'est compliqué, mais en fait on se rend compte que les faits divers qui sont marquants en général, en tout cas pour ma part, ce sont les faits divers qui recèlent une histoire en fait, sur lesquels on peut raconter une histoire, qui disent quelque chose de notre société en quelque sorte. Moi je me souviendrai toujours d'une des premières affaires que j'ai pu couvrir qui était celle d'un lynchage d'un pauvre étudiant en sociologie à Toulouse qui avait été jeté du haut du pont Neuf, la tête la première, par une horde de SDF enragés. Et ce jeune étudiant avait eu le malheur de braquer son skateboard sur les chiens de ces SDF. Alors quand on connaît l'importance des animaux, des chiens notamment, dans ces gens-là, on peut comprendre certaines choses. Alors ce pauvre étudiant, lui, il voulait faire de la sociologie avec des gens qui étaient complètement avinés et intoxiqués
par
des drogues. Et donc il voulait s'intéresser un petit peu à eux, et puis le ton était monté, et l'effet de meute a fait qu'il s'est fait poursuivre par 4 ou 5... marginaux et qui l'ont jeté dans la Garonne. Et je me souviens, c'était horrible parce qu'en même temps, sa famille était d'une dignité exceptionnelle. Elle avait reçu chez elle à Toulouse, cet étudiant était originaire de Bretagne, et son papa était venu à Toulouse, il avait rencontré les amis de son fils, et ils avaient reçu dans un appartement, et tout le monde... malgré la douleur et la brutalité de ce qui s'est passé, il avait organisé une espèce de veillée funèbre autour du souvenir de cet étudiant. Et je me souviens d'avoir pris part à cet événement. C'était prenant, c'était très très émouvant. Et ensuite, alors...
Mera, je suppose.
Alors, Abdelkader Mera, le frère de Mohamed Mera, oui, c'était... aujourd'hui, ça fait 14 ans.
C'est l'anniversaire, triste anniversaire.
Voilà, alors, dans un autre contexte, ce qui était déroutant, c'était les témoignages des élèves de l'école Osaratora. Je me souviens du témoignage de la déposition du médecin légiste qui avait expertisé le corps de la petite Myriam. Et quand vous avez un médecin légiste qui détaille les atrocités qu'il a examinées, la balle, et quand on sait comment elle est morte, et ce médecin légiste à la barre vient vous dire après un long souffle d'exaspération, vient vous dire c'est horrible de tuer une enfant. Alors il sort de son cadre de médecin légiste, mais là aussi on retrouve de l'humanité dans ce qu'il y a de plus cruel. Et c'est ça aussi le fait divers. Et c'est ça, ce sont des faits d'audience qui sont très forts. L'affaire en Ariège, Montesinos, cette infirmière qui tue son amant par jalousie avec la complicité de son nouveau compagnon, ce nouveau compagnon qui est sous l'emprise de cette femme qui exerce visiblement beaucoup de pression sur lui et beaucoup d'influence, il raconte en direct à l'audience devant la cour le meurtre d'à la fois de cet homme et de sa fille, parce qu'ils ont tué aussi la fille qui a été témoin du lynchage de cet homme, et pour pas qu'il y ait de témoins, pour pas laisser de traces, ils sont obligés de tuer cette gamine de 18 ans. Voilà, donc ça aussi c'est un moment rare dans une cour d'assises où le principal accusé vous raconte le crime, quoi. Puisqu'aujourd'hui, on a affaire à des gens soit qui nient, soit qui se souviennent plus, soit qui dormaient, soit qui... Voilà, donc ce sont des moments assez rares.
Des moments assez forts, j'imagine, Alessandro, quand on est avec des clients et qu'on n'est pas arrivé à faire valoir son point de vue sur la personne, non ?
Vis-à-vis du client ou vis-à-vis de la
justice ? De la justice. Est-ce que ça vous est arrivé, ça ?
Alors, en cour d'assises, pour ma part, non, puisque c'est davantage mon associé qui le fait. Donc moi, j'en ai eu et j'étais plutôt satisfait de mes résultats. Le dernier, j'avais eu un acquittement, donc je ne vais pas m'en plaindre. Après, sans aller sur la cour d'assises, parce que les faits divers, en réalité, on les a devant le tribunal correctionnel, on est parfois frustré quand juridiquement, on a un argument au soutien d'une nullité de procédure ou de relax, et qu'on n'est pas forcément suivi par le tribunal, alors que juridiquement,
ça tenait la route.
Ça tient. Et là, en fait, on va voir que, parce qu'au tribunal correctionnel, il n'y a pas forcément de motivation de prime abord, elle va avoir lieu dans un jugement si vous faites appel. Et donc, c'est là où on découvre a posteriori les raisons juridiques qui ont fait que le tribunal n'a pas suivi. Et donc là, c'est énervant parce qu'on sait que ça tenait. Donc après, il y a la voie de l'appel. Généralement, quand ça tient à la cour, ils vont venir infirmer la décision et ils vont aller sur le point de droit. Mais c'est énervant et ça peut provoquer de la colère. Alors, peut-être que voilà, ça va choquer de la manière dont je le dis, mais moi, j'ai l'impression, en tout cas, et c'est mon métier, je ne suis pas là pour faire du fait. Enfin, bien sûr qu'il y a le fait, c'est important en matière pénale, mais ma plus-value, elle est vraiment sur le terrain du droit. Donc c'est comme si vous avez un jeu de poker entre les mains, il faut abattre les bonnes cartes au bon moment. Et si vous avez les bons arguments juridiques parce que ça ne fait pas un pli, et puis il faut faire respecter ça et que ça ne passe pas, oui, c'est frustrant. Mais après, il faut voir, on perd peut-être une bataille, mais pas la guerre. Ce qui compte, c'est de l'avoir au final. Voilà. Mais je le prends en fait comme quelque chose qui est énervant parce que je considère que le droit n'a pas été respecté à certains moments. Voilà.
Et vous faisiez allusion à ça quand vous évoquiez Maître de Dieu, qu'il a justement, vous parliez de frustration, mais on était uniquement dans la règle ou aussi dans l'humain ?
Non, alors, aussi dans l'humain et surtout même sur des dossiers où, vous savez, c'est pas contesté, c'est même reconnu que les faits ont été reconnus et que donc bien entendu la culpabilité... on s'y attend, mais c'est lorsque la peine, on la considère pas adaptée. C'est un petit peu ce qui a été dit à tout à l'heure. Parfois, ça colle pas. Et soit parce que c'est trop sévère et c'est pas justifié, soit au contraire, des fois, on a des peines qui sont totalement en deçà de ce qui aurait dû certainement être prononcé. Et donc là, bien sûr, il va y avoir toujours les partisans du trop sévère ou pas assez sévère, mais c'est vrai que sur certains dossiers, c'est parfois...
Mais de manière générale, là, est-ce qu'on est dans l'exceptionnel ou est-ce que vous diriez que, bon gré mal gré, bon an mal an, la justice se comporte plutôt bien?
Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'au fil des années, la justice, quand même, en matière pénale, devient de plus en plus sévère sur le terrain des peines. Ce n'est pas le sentiment que ont les citoyens, mais lorsqu'on fait la moyenne des peines, elle a tendance à augmenter. Donc, il y a une forme de sévérité. Ensuite, ils ne vont pas forcément sur le maximum, parce que lorsque vous prenez n'importe quelle infraction du code pénal, vous allez prendre un vol simple, le code pénal dit c'est 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, ce sont des maximums. vous êtes primo-délinquant, jamais de la vie vous allez avoir ça. Vous allez avoir un sursis simple ou peut-être même du travail d'intérêt général. Donc on est très loin de ce que le code pénal va prévoir en tant que maximum. Et c'est peut-être ça, entre le maximum encouru et l'échelle des sanctions qui va être prononcée au début, qui fait que les citoyens vont peut-être considérer que la justice, elle est parfois laxiste, trop clémente et laxiste. Alors qu'en réalité, pas tant que ça, parce qu'on le voit aussi au travers des incarcérations, elles sont de plus en plus fréquentes, l'exécution provisoire, elle est de plus en plus prononcée. Alors ça fait des fois les choux gras avec certains procès politiques, mais en réalité, elle est prononcée de plus en plus en matière pénale. Donc non, on ne peut pas dire qu'elle est laxiste. Voilà. Elle applique des règles qui sont votées. Donc après, pour en revenir à certains politiques qui vont se plaindre de certains traitements, en réalité, c'est le traitement que n'importe quel justiciable va avoir dans les mêmes conditions. Voilà. Alors pour en revenir d'ailleurs sur l'histoire de classe sociale par rapport à la passion sur les faits divers, je trouve au contraire qu'on se passionne lorsque, on va dire, certaines élites vont commettre des méfaits, justement parce qu'il s'agit d'élites, mais dans certains types de contentieux, parce qu'on les voit dans quoi ? Dans des affaires de financement illégal, de corruption ou autre, et c'est là, quand le politique est connu, que oui, ça va enflammer. Mais je ne sais pas si ce n'est pas décorrélé quand même du dossier, on est plutôt sur les pour le personnage politique et les contre. Donc on revient en fait un petit peu sur l'idéologie, ça dépasse parfois le dossier.
Sur la reine politique, oui. Je vous remercie, on va s'en tenir là parce que je vois qu'il est déjà 19h25. Juste avant de partir et de remercier nos invités, je voudrais vous dire que le prochain rendez-vous de l'actu, c'est le jeudi 30 avril. Ce sera le sens du travail, puisque là aussi, il y a des générations qui changent les choses bougent sur la manière dont on considère le travail, avec un T majuscule. Donc voilà, vous serez les bienvenus si vous voulez venir jeudi 30 avril. Un grand merci Élise Costa, un grand merci Alessandro et Frédéric. C'était passionnant. Et merci à vous de votre présence.
Mémodio, une mémoire sonore.